Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet assez chaud, le projet de loi de finances 2026 au Maroc. C'est le dernier budget du gouvernement actuel et le contexte est, comment dire, tendu. On a la sécheresse, l'inflation qui fait mal, la dette publique et puis bien sûr la Coupe du Monde 2030 à préparer, sans oublier les tensions qui montent déjà pour les élections de 2026. Bref, un sacré cocktail. Et c'est là qu'intervient l'Alliance des économistes istiklaliens, l'AEI. Ils sont sortis une note avec des recommandations assez fortes. On va décortiquer ça ensemble en se basant sur un article de l'ODIJ. L'idée, c'est de comprendre ce qu'ils proposent vraiment et pourquoi ça fait autant de bruit.
Tout à fait. L'objectif, c'est de voir, au-delà des aspects techniques, quelle vision du Maroc ça dessine. Parce que ce sont des vrais choix de société, hein. Et comme le dit l'article, cette note, ben, elle n'a pas laissé indifférent. Ça a provoqué des réactions, disons, passionnées. C'est signe que ça touche des points sensibles.
Oui, on sent que ça a piqué. Alors, commençons. L'AEI met vraiment l'accent sur l'état social. C'est leur priorité numéro un, on dirait.
Absolument. Et là-dedans, le gros dossier, le plus explosif peut-être, c'est les retraites. C'est un peu le serpent de mer au Maroc, cette réforme, toujours remise à plus tard. Sauf que là, il y a urgence. Certaines caisses pourraient être dans le rouge dès 2030. Et puis, il y a le vieillissement de la population. L'AEI pointe un paradoxe. On généralise l'AMO, on lance des aides directes, c'est bien, mais le système de retraite, qui est quand même un pilier, ben, il reste un peu en plan.
Mais pourquoi c'est si urgent maintenant, plus qu'avant? Qu'est-ce qui a changé selon eux?
Bah, pour l'AEI, il y a plusieurs raisons qui s'accumulent. D'abord, l'aspect financier, c'est évident. Plus l'on attend, plus ça va coûter cher aux générations futures, quoi. Ensuite, il y a une question de crédibilité. L'état social, c'est bien joli, mais si la promesse d'une retraite correcte n'est pas tenue, ça fragilise tout l'édifice. Et puis, il y a le timing politique. 2026, c'est peut-être la dernière fenêtre de tir avant les élections. Après, ça devient beaucoup plus compliqué. Sans oublier la contrainte budgétaire qui est là, hein. Donc la réforme, elle est quasiment inévitable, en fait.
D'accord. Et concrètement, il propose quoi pour éviter le crash?
Alors, l'approche qui est décrite, elle s'en veut pragmatique. Il parle de faire converger petit à petit les différents régimes, publics et privés, pour plus d'équité déjà. Il suggère aussi un socle minimum de retraite qui serait financé par l'impôt pour ceux qui n'ont pas pu cotiser assez. Mais le vrai défi, c'est d'élargir la base, faire cotiser plus de monde, les indépendants, les saisonniers, les précaires. Et pour ça, ils misent sur les nouveaux outils, comme le registre social unifié, le RSU, et la digitalisation. Et enfin, revoir la gouvernance. Peut-être fusionner certaines caisses, avoir un pilotage plus clair sur plusieurs années. L'idée clé, c'est ça. Plus de cotisants, même avec des petites sommes, pour que le système tienne.
Compris pour les retraites. L'autre point noir social, c'est l'emploi. Surtout pour les jeunes et aussi pour les femmes. L'AEI a des idées là-dessus aussi.
Ah oui, c'est même un des chapitres les plus fournis. C'est ce fameux paradoxe marocain, hein. On investit beaucoup, mais le chômage des jeunes, en ville notamment, il reste très très élevé. On parle de plus de 30%. Et pour les femmes, le taux d'activité est toujours bloqué très bas, autour de 20%. C'est un gâchis de potentiel qui est juste énorme.
Pourtant, il y a des programmes qui existent. IDMAJ, TAFIZ, TARIL, on en entend parler. Pourquoi ça ne me suffit pas d'après l'analyse?
Ben, l'analyse qui est rapportée pointe plusieurs faiblesses. Par exemple, TALFIZ, les conditions seraient trop limitées. Le plafond de 10 salariés aidés par entreprise, ça freine. Il y a aussi le problème classique de l'inadéquation formation-emploi. Ce qu'on apprend et ce que les entreprises cherchent, ça colle pas toujours. L'ANAPEC, l'Agence pour l'emploi, elle est décrite comme pas toujours très efficace pour faire le lien. Et puis, la paperasse, quoi. Ça décourage tout le monde.
Ah oui, la fameuse lourdeur administrative.
Exactement. Du coup, ces programmes, parfois, ils sont un peu vus comme des slogans, sans vrai suivi derrière. Et pour les femmes, il y a des obstacles en plus, hein. La mobilité, la garde des enfants, c'est compliqué.
C'est un tableau assez sombre quand même. Quelles sont les pistes de l'AEEI pour améliorer ça?
Ils proposent des ajustements assez précis. Pour TAFIS, par exemple, augmenter le plafond à 20 salariés et relever le seuil de salaire exonéré pour attirer aussi des profils plus qualifiés. Pour TAIL, le programme qui aide à la formation, il suggère de doubler la contribution de l'ANAPEC et de l'ouvrir aussi aux non-diplômés via la VAE, la validation des acquis de l'expérience.
La VAE, ça c'est intéressant.
Oui, et relancer IDMAJ, mais avec un suivi obligatoire sur 2 ans, pour vérifier que ce sont de vrais emplois, pas juste des stages déguisés. et puis des idées nouvelles, une sorte de bourse nationale de l'emploi, mais numérique, pour connecter l'ANAPEC, l'OFPPT, les entreprises. Fluidifier le marché, quoi. Il parle aussi beaucoup d'emplois verts, et surtout des mesures ciblées pour les femmes. Crédit d'impôt pour les entreprises, aide pour la garde d'enfants. L'objectif, c'est clair, rendre tout ça plus efficace, plus concret.
D'accord, donc consolider l'État social, booster l'emploi, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et on a parlé de la dette, des grands projets comme la Coupe du Monde. Comment l'AEAI voit ce défi du financement ?
Oui, c'est là que ça devient un peu acrobatique. D'un côté, l'investissement public a vraiment grimpé ces dernières années. 325 milliards de dirhams par an, c'est énorme. La Coupe du Monde 2030, ça va encore pousser les dépenses d'infrastructures. Et de l'autre côté, la dette publique qui est proche de 70% du PIB. Comment on fait tenir tout ça ?
Alors, c'est quoi la ligne de l'AEAI ? Serrer la ceinture ou continuer à investir massivement ?
D'après ce que dit la source, c'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt un peu des deux. L'AEAI dit en gros, ambition et discipline, c'est pas forcément opposé. La clé, c'est d'être beaucoup, beaucoup plus sélectif dans les dépenses. Le vrai danger, c'est pas d'investir, c'est de mal investir. Ils insistent là-dessus. Il faut savoir faire la différence entre les projets qui vont vraiment structurer le pays à long terme, comme le TGV par exemple, et ce qu'on appelle les éléphants blancs.
Ces grands projets un peu inutiles une fois l'événement passé.
Exactement. Des infrastructures très chères qui ne servent pas à grand-chose après. Donc, comment choisir ?
Oui, comment on fait le tri de manière objective ?
L'AEAI propose une méthode évaluée systématiquement avant de lancer un projet. Avec des critères clairs. Quel impact sur l'emploi local ? Est-ce que ça servira encore après 2030 ? Est-ce que ça renforce notre souveraineté, alimentaire ou autre ? Quel impact écologique ? Il suggère aussi d'utiliser plus les PPP, les partenariats publics-privés. Mais attention, en étant hyper vigilant sur la transparence des contrats. Il plaide aussi pour la préférence nationale dans les marchés publics, faire travailler les entreprises marocaines d'abord. Et un point important, passer au crible les niches fiscales et les subventions qui ne servent pas à grand-chose, pour récupérer cet argent et le mettre là où c'est vraiment utile. C'est une logique de qualité, pas juste de volume.
D'accord, cette sélectivité, ça aide pour la dette. Mais est-ce que l'AEAI s'inquiète vraiment du niveau actuel de la dette ?
Leur position a l'air nuancée, le risque est là, oui, si on continue à dépenser sans trop regarder. Mais ils disent pas que la situation est catastrophique maintenant. Pour eux, la vraie question, c'est pas tant combien on emprunte, mais plutôt pourquoi on emprunte. Une dette qui finance un projet comme Tangemed, qui crée de la richesse pour des décennies, c'est une bonne dette. Une dette qui finance juste les dépenses de fonctionnement ou des projets pas rentables, là, c'est dangereux.
Donc en gros, leur message, c'est « empruntons, mais intelligemment ».
C'est un peu ça, oui. Prioriser, utiliser les PPP pour partager le risque et avoir une vision long terme. Il parle aussi, bien sûr, d'élargir l'assiette fiscale, faire payer l'impôt à plus de monde et de rationaliser les dépenses de l'État pour trouver des marges de manœuvre. Et ils avancent cette idée de comité indépendant pour surveiller tout ça, pour objectiver le débat. On y reviendra peut-être.
Oui. Mais avant ça, il y a une autre piste de financement, l'épargne des Marocains eux-mêmes. L'AEAI dit qu'elle est trop faible. Pourquoi et comment la mobiliser davantage ?
Ah oui, ça, c'est un point qui leur semble important. Le constat est assez clair, l'épargne moderne, disons, bancaire ou financière, elle n'est pas très développée au Maroc. Moins d'un quart des ménages auraient ce type de produit. Bon, il y a des raisons culturelles. On préfère la pierre, l'or, garder l'argent chez soi. Mais il y a aussi une offre qui est jugée vieillotte. Les plafonds des plans d'épargne, le PEE en entreprise, le PELE pour le logement, le PE éducation, ils n'ont pas été revus depuis plus de 10 ans.
Ah oui, quand même.
Avec l'inflation.
Exactement, ça devient plus du tout intéressant. La fiscalité n'est pas très incitative non plus. Et puis, il y a un vrai manque d'éducation financière. Les gens connaissent mal ces produits. Et du coup, c'est quoi le plan de l'AEAI pour réveiller cette épargne ?
C'est un plan assez volontariste. D'abord, un grand coup de jeune sur les plafonds. Il propose de les augmenter fortement. Le PE à 1 million de dirhams, par exemple. Ensuite, rendre la fiscalité plus attractive, par exemple sur les placements collectifs ou en encourageant plus les entreprises à abonder les plans de leurs salariés. Ils insistent aussi sur une grande campagne d'éducation financière à l'échelle nationale. Et ils veulent réactiver une vieille loi qui permet de déduire les frais de scolarité. Ça aiderait bien les classes moyennes. L'idée derrière tout ça, elle est simple. Si on veut être moins dépendant des capitaux qui viennent de l'étranger, il faut que l'épargne des Marocains soit mieux collectée et mieux utilisée pour financer l'économie du pays.
On a couvert les grandes réformes sociales, le financement. Mais l'AEI regarde aussi des choses plus structurelles, comme le rôle des régions ou le statut des petits entrepreneurs, la gestion du foncier aussi. Commençons par les régions.
Oui, la régionalisation avancée. C'est dans la Constitution depuis 2011. Mais sur le terrain, ça a du mal à vraiment décoller. Les régions manquent encore de moyens financiers, de compétences claires, et les inégalités entre les territoires restent très fortes. Pour l'AEI, il faut vraiment passer la seconde. C'est une condition, disent-ils, pour que l'État social soit efficace. Il faut qu'il soit adapté aux réalités locales. La santé et les urgences, par exemple, c'est pas pareil partout.
Et comment on fait concrètement pour leur donner plus de poids ?
L'AEI propose de leur donner plus d'argent, augmenter leur part de la TVA par exemple, leur permettre aussi de lever certaines taxes locales, comme sur les péages ou les ressources minières. Il suggère aussi un observatoire national pour suivre les déséquilibres entre régions et mieux cibler les actions. Et puis, créer des fonds régionaux d'investissement qui devraient obligatoirement financer un quota de PME locales. L'idée, c'est vraiment de rapprocher la décision du terrain.
C'est logique. Et pour les plus petits acteurs, les auto-entrepreneurs ?
Le statut actuel pose problème selon eux. Alors, ce statut, il a eu un gros succès au début, c'est vrai. Il a sorti pas mal de monde de l'informel, plus de 400 000 inscrits, c'est pas rien. Mais le souci, ce sont les plafonds de chiffre d'affaires. Ils sont jugés trop bas aujourd'hui. 200 000 DH pour les services, 500 000 pour le commerce. Du coup, ça agit comme un frein. Quand tu arrives près du seuil, passer au statut de société normale, avec la TVA, la compta, les charges, c'est une marche énorme.
Ah oui, ça peut faire peur.
Bah oui. Du coup, soit tu stagnes volontairement sous le seuil, soit tu retombes dans l'informel pour une partie de ton activité. C'est pas idéal.
Et donc l'AEI propose quoi pour régler ça ?
C'est assez direct. Doubler les seuils, passer à 400 000 DH pour les services et 1 million pour le commerce et l'industrie. L'objectif, c'est pas de créer une niche où on reste indéfiniment, mais plutôt de créer une sorte de pont, une transition plus douce, pour que ces petites activités puissent grandir un peu avant de passer à l'étape suivante. Et pour aider, il suggère aussi d'autres mesures comme baisser un peu la retenue à la source ou que les centres régionaux d'investissement, CRI, accompagnent mieux ceux qui veulent passer en SARL ou SAS, faciliter la croissance en somme.
Un autre gros morceau structurel, et souvent un sujet sensible, le foncier public. L'AEI pense qu'il y a un trésor caché là.
Oui, clairement. Le Maroc a un patrimoine foncier public énorme. Des terrains qui appartiennent à l'État, aux communes. Mais c'est souvent décrit comme mal géré, pas bien recensé, sous-utilisé. Et parfois, c'est source de spéculation, voire de corruption. La SCIA a une idée assez forte. Créer des sociétés foncières, mais au niveau régional. Pour mobiliser ces terrains et les mettre au service du développement local. Construire des logements, créer des zones industrielles, des équipements.
Intéressant. Mais le risque, c'est que ça crée de nouvelles rentes, non ? Que quelques-uns en profitent plus que d'autres. Comment on évite ça ?
C'est la question cruciale. Et l'AEI semble en être consciente. Il propose des garde-fous. D'abord, un cadastre public complet et transparent. Savoir exactement ce qui existe et où. Ensuite, que ces sociétés foncières régionales ne soient pas juste contrôlées par l'État. Il faudrait y associer les régions, peut-être même la société civile. L'idée, c'est que l'argent généré par ces terrains soit vraiment réinvesti dans des projets locaux utiles, pas juste dans les dépenses courantes. Et imposer des règles claires aux entreprises ou aux promoteurs qui utilisent ces terrains, combien d'emplois créés, quelle valeur ajoutée pour la région. Il parle même de permettre aux régions de réinvestir une partie des bénéfices dans des fonds pour aider les PME locales. Bref, la transparence et la participation citoyenne, c'est présenté comme la clé pour que ça marche et que ça ne dérive pas.
D'accord. Il faut aussi dire, je crois, que la note aborde d'autres points importants, comme la souveraineté alimentaire, la reconstitution du cheptel, des sujets très actuels avec la sécheresse. Tout ça, ça dessine une vision assez complète.
Oui, une vision assez cohérente et qui débouche sur la question de la confiance. La confiance dans la façon dont les politiques publiques sont menées, évaluées. Et c'est là qu'interviennent leurs idées de comité indépendant des finances publiques.
Expliquez-nous ça. Pourquoi rajouter encore une instance ? On a déjà le ministère, le Parlement, la Cour des comptes.
L'idée, qui s'inspire de ce qu'on appelle les fiscal councils dans d'autres pays, c'est d'ajouter une couche de crédibilité et de transparence. Le système actuel est parfois jugé un peu trop technique, un peu opaque pour le citoyen moyen. Et ça manque peut-être de prévisibilité pour les investisseurs aussi. Ce comité, il n'aurait pas de pouvoir de décision, attention, mais son rôle serait d'évaluer si la dette est soutenable, en incluant les engagements futurs, comme les retraites, par exemple. Il regarderait aussi si les grands investissements publics sont vraiment efficaces, s'ils servent à quelque chose. Et surtout, il publierait des rapports clairs, compréhensibles par tout le monde, pour nourrir le débat public de manière neutre. L'indépendance de ses membres serait cruciale, évidemment. Une sorte de tiers de confiance pour l'économie.
D'accord. Et pour finir sur la note elle-même, elle a vraiment fait réagir l'article de l'ODG, Arles, de réactions très, très vives, voire d'insultes. Comment on peut expliquer ça ?
Oui, c'est un point assez surprenant rapporté par la source. Apparemment, autant le fond des propositions a été discuté de manière assez constructive, même par des opposants politiques, autant il y avait eu une campagne d'attaque très personnelle venant d'une certaine presse. L'éditorialiste de l'ODJ, Adnan Benchakroun, utilise des mots forts. Insultes, accusations de régionalisme, de lutte des classes, on a ressorti de vieilles histoires contre le parti Istiklal. Il parle même de théorie du complot. C'est assez violent apparemment.
Mais pourquoi une telle hargne, d'après l'analyse de la source ? Qu'est-ce qui a pu déranger à ce point ?
L'auteur avance plusieurs pistes. Est-ce que la note a touché des intérêts bien établis, financiers ou politiques ? Est-ce que c'est le moment choisi, juste avant la rentrée politique, à l'approche de 2026, qui a énervé ? Ou est-ce que c'est le fond même des idées ? L'insistance sur l'état social, sur la nécessité de redistribuer un peu, de corriger les inégalités ? Est-ce que ça heurte ceux qui sont bien installés dans le système actuel ? Ce qui est assez ironique, c'est la conclusion de l'éditorialiste. Il dit que l'objectif de l'AEI, c'était de lancer un débat national sur des sujets cruciaux. Et finalement, ces attaques excessives, aussi regrettables soient-elles, elles ont peut-être servi cet objectif.
Comment ça ?
En faisant autant de bruit, même négatif, ça a attiré l'attention sur la note elle-même. Ça a piqué la curiosité des gens. Un formidable coup de com', mais involontaire en quelque sorte.
D'accord. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, cette feuille de route de l'ERAI pour 2026, telle que l'ODJ nous la présente, elle montre un Maroc qui est vraiment à un tournant. Le message principal, c'est qu'il faut des réformes courageuses, structurelles, pour que l'état social soit une réalité, pas juste un beau, pour que l'argent public soit mieux utilisé, pour que les régions aient plus de poids, et pour reconstruire la confiance avec plus de transparence.
Exactement. Et il faut bien voir que tout ça, c'est pas juste des concepts abstraits, hein. Quand on parle retraite, emploi des jeunes, services publics en région, épargne, ça touche directement la vie des gens, leur quotidien, leur avenir. C'est très concret.
Oui, tout à fait. Et ça nous ramène à la question de fond posée par l'article. Est-ce que ce PLF 2026 sera celui du courage réformateur ? Ou est-ce qu'on va encore une fois choisir de repousser les choix difficiles ? C'est difficile à prévoir, bien sûr, mais une chose est certaine, ne rien faire sur des dossiers aussi lourds que les retraites, l'emploi des jeunes ou les inégalités entre territoires, ça a un coût aussi. Et ce coût, il risque d'être très élevé à long terme. Voilà une question qui reste ouverte et qui va sûrement animer les débats dans les mois à venir.